Radio Foot International, spécial UEFA Euro 2024 avec Annie Gasnier.
Et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International de notre première émission en cette période d'Euro, bien sûr. Et nous commencerons par cette Albanie qui a surpris la Croatie. La sélection de Modric est peut-être proche de l'élimination. En tout cas, cet après-midi à Stuttgart, dans un match âprement disputé, les Albanais ont mené puis égalisé en toute fin de match. Et dans ce groupe B, dit groupe de la mort, les Albanais et les Croates devront jouer leur survie face à l'Espagne et à l'Italie. Retour sur la victoire portugaise. Hier soir, une victoire à l'arraché. Après avoir longtemps bataillé contre les Tchèques, CR7 et ses camarades ont remporté le match et réussi leur entrée dans la compétition. Le sélectionneur Roberto Martinez a cependant surpris et suscité quelques interrogations sur ses choix. Les Écossais déferlent sur l'Allemagne et animent bruyamment les tribunes et les ruelles du pays hôte en espérant ce soir pousser leur sélection à la victoire. Ce sera contre la Suisse pour oublier le bouillon en ouverture face à la Mannschaft. Et puis Kylian Mbappé absent de l'entraînement avec les Bleus cet après-midi, mais le capitaine n'est pas encore forfait pour le prochain match de l'équipe de France. Didier Deschamps a-t-il néanmoins de bonnes solutions s'il doit se passer de son numéro 10 ? Nous allons en parler avec nos invités du jour. Bonjour Benjamin Moukandjo.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là avec nous après votre petit crochet en Allemagne, Vénard.
Oui, allé voir un peu ce que l'équipe de France allait nous proposer contre cette valeureuse équipe autrichienne. En tout cas, on n'a pas été dessus. C'était un très très bon match avec beaucoup d'intensité et comme souvent à la fin... La France gagne.
La France qui gagne. On va changer le refrain. Bonjour Xavier Barret.
Bonjour Annie.
Merci d'être là avec nous, ainsi qu'Étienne Moati. Bonjour Étienne.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin et Mathieu De Gelre est à la réalisation. À Radio Foot, c'est parti.
Le sang. Oh, la tête du premier but. Kassim Lassi qui a fait une belle entrée face à l'Italie. Titulaire pour ce second match. Et comme face à l'Italie, il marque très tôt dans cette partie des Albanais. La tête de Kassim Lassi permet à l'Albanie de mener 1-0 face à la Croatie.
Andrej Kramaric. Ukrao tamo povrata. Imali gol.
C'est bien fait, ça, ce centre en retrait. Il est dévié, la frappe de Diajoula. Il avait inscrit le but contre son camp, permettant à la Croatie de mener 2-1. Il égalise pour l'Albanie. Les Albanais courageux, les Albanais fiers. Le petit poussé qui va arracher le match nul. Incroyable cette fin de match. Incroyable.
Troisième de la dernière Coupe du Monde et finaliste en 2018, la Croatie vit un euro compliqué après sa défaite face à l'Espagne, score sévère de 3-0. Et cet après-midi, les Croates n'ont pu arracher que le match nul face aux Albanais 2-2. Deuxième nul de cet euro après, durant le week-end, Slovénie-Danemark qui s'était achevé sur le score de 1-1. Est-ce que c'était un super match cependant, Étienne Moati ?
Celui de cet après-midi, c'était un bon match. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir des équipes. On critiquait beaucoup cet Euro à 24, considérant que, franchement, il y avait beaucoup d'équipes qui n'avaient pas leur place dans cette compétition. On s'est aperçu hier, on a vu un match exceptionnel entre la Turquie
et la Géorgie,
avec une équipe de Géorgie vraiment très, très, très intéressante. Et on a vu l'Albanie aujourd'hui vraiment proposer des choses là aussi très intéressantes, un football qui va de l'avant. Et donc, on a vu un bon match, un peu moins bon que celui d'hier quand même, mais un bon match.
C'est vrai que c'est l'occasion, Xavier Barret, de découvrir aussi d'autres footballs et d'autres sélections.
Oui, alors il n'y a qu'un seul bisu cette année, c'est donc
oui,
la Géorgie.
C'est la Géorgie. Alors, mais on ne peut pas dire qu'on voit souvent l'Albanie, sauf en Ligue des Nations, elle doit être en.
Mais Xavier Barré, lui, regarde tous les matchs de l'Albanie et tous les matchs du championnat d'Albanie aussi.
Non, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir que le niveau du football européen, il y a une telle intensité qu'aujourd'hui, une équipe comme la Géorgie débarque et elle n'est pas ridicule. L'Albanie revient, ils étaient déjà à l'Euro 2016 en France et ils sont compétitifs parce que vous voyez que des équipes comme la Suède, qui est un habitué des phases finales, la Norvège, la Grèce, qui a été championne d'Europe en 2004, ne sont pas là. Donc ça démontre que le niveau global du football européen est monté et qu'effectivement cet élargissement sur lequel on avait des doutes lorsqu'il est arrivé pour la première fois en 2016 en France, et bien finalement il se justifie parce que ces 24 équipes, elles sont toutes compétitives.
Oui, et surtout on se bat jusqu'au bout dans ce genre de match, et David Finzel tout à l'heure disait c'est ça l'euro, et c'est vrai que par rapport aux grosses nations qui font le minimum, un peu comme pour les JO, là on fait les temps minimum pour se réserver pour la grande compétition. Benjamin, sur le contenu du match, la Croatie, elle s'est pris un 3-0 face à l'Espagne. Ouais. Et là, elle a perdu, enfin, elle a fait un match nul, mais elle a failli d'ailleurs. Hein. On se demandait même si elle n'allait pas le perdre, ce match. Est-ce que ça vous a semblé logique, cette prestation?
Je vais même dire qu'elle est passée par toutes les émotions. Elle a failli perdre, à la fin, elle a failli gagner.
Menée, ouais.
À la fin, elle se fait rejoindre au score. Je pense que pour la Croatie, après ce non-match contre l'Espagne, où ça a été tellement difficile pour une équipe qu'on avait vue bien jouer, surtout lors de ce mondial, où on sentait qu'elle était très équilibrée sur tous les points du terrain. Mais je pense qu'aussi, la Croatie, quand même, ils arrivent quand même à une fin.
Voilà, c'était
une fin de règne. Parce qu'il y a eu.
Aujourd'hui,
quand on regarde quand même la moyenne d'âge, on voit qu'il y a quand même des joueurs qui sont âgés et qui ont fait beaucoup d'efforts pour cette équipe. Maintenant, il va falloir trouver des jeunes joueurs, se renouveler. Parce que moi, j'ai regardé le match, encore une fois, je trouve que même dans les phases de possession, je trouve que c'est trop lent pour une équipe qui envisage d'aller gagner cette Coupe d'Europe. Il n'y a quasiment pas d'accélération. Pour moi, ça a été quasiment au même rythme. C'est pour ça qu'une fois de plus, elle s'est fait bouger contre l'Albanie. Mais attention, on ne va pas enlever tout le mérite qu'a eu cette équipe albanaise d'avoir vraiment bougé. On savait que c'était un bloc solide. Silvinho, il aime bien ce système-là avec des joueurs par moments ultra-offensifs. Et voilà, moi, je trouve que c'est un peu dommage parce que j'attendais beaucoup plus de cette équipe croate. Maintenant, elle n'est pas encore éliminée. Souvent, il y a des équipes qui ont eu un début de championnat ou de coupe difficile et au fur et à mesure, elle monte en intensité. Mais j'y crois pas beaucoup pour cette équipe croate.
Étienne, c'est vrai qu'on s'est habitué à la présence de cette équipe croate depuis 1996, selon les statistiques. Hein, ils ont toujours passé le premier tour de l'Euro, sauf en 2000 où ils étaient pas là. Mais sinon, oui, ils font que la phase éliminatoire. Mais sinon, ils sont quand même toujours là et on les a vus. Hein, surtout les Français,
oui,
là, on les a
équipe,
souvent rencontrés.
C'est une équipe qu'on connaît bien,
exactement.
Qu'on a beaucoup rencontré.
Coupe du Monde 98 aussi.
Qu'on a pas mal battu. On est un petit peu leur bête noire parce qu'on les a battus en 98.
En demi-finale et en finale.
En 2018 aussi. Donc voilà, ils nous apprécient peu. Mais ils font en général de bon parcours et c'est une équipe historiquement avec un fond de jeu, avec joueurs extrêmement techniques. C'est vrai que peut-être aujourd'hui ils pâtissent un peu de la saison de Luka Modric, qui est quand même l'immense leader de cette sélection et qui a fait une saison réelle où il a quand même assez peu joué. Donc peut-être qu'il est un petit peu au bout, hein, même si on voit dans cette Euro des joueurs qui a 39 et 40 ans.
Il y a pas mal de vétérans, on va dire.
Donc on est prudent, mais bon, c'est vrai que peut-être plus que l'âge, c'est peut-être le manque de rythme qu'il a par rapport à sa saison au Real.
Mm-hmm. Moi, je le trouve un peu sévère quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que la Croatie, c'est 4 millions d'habitants. Alors même s'ils récupèrent par-ci par-là un joueur qui a grandi en Suisse ou en Allemagne, ils ont quand même un réservoir de joueurs assez réduit. La première génération qui avait brillé sous le maillot croate, parce qu'il ne faut pas oublier que les meilleurs joueurs croates jouaient à l'époque à la Yougoslavie, et donc ils avaient l'occasion de briller avec la Yougoslavie. Que la première génération croate qui a brillé, donc, notamment à la Coupe du Monde 1998 en terminant troisième, c'était la génération yougoslave qui avait été championne du monde des 20 ans en 1987. Donc c'était une génération très brillante.
Vous nous faites du Rémi Mbono, là.
Non, mais juste pour dire que là, depuis, ils sont revenus au premier plan.
Il a énormément de dossiers, Xavier Barré. Donc si on a si on a la caméra sur lui, forcément, il en sait énormément de choses.
Ils ont eu un petit trou de générationnel au début des années 2000. Mm-hmm. Et depuis, ils sont revenus avec beaucoup de joueurs de talent. Alors là, Modric joue les prolongations.
On ne voulait pas être sévère sur l'ensemble de l'histoire de la Croatie.
Par exemple, sur la compétition, la première période, contre l'Espagne, effectivement, ils prennent 3 buts en une mi-temps. Là, contre l'Albanie, ils ont du mal encore une fois en première période, mais ils réagissent bien en deuxième période.
Oui, ils ont deux minutes.
Ils font 70% de possession et ils ont cette petite boulette du gardien à la fin qui fait qu'ils concèdent un nul là où ils doivent gagner. Mmh. Donc, effectivement, ce n'est pas satisfaisant au plan du résultat, mais quand on prend la prestation dans son ensemble...
Je ne sais pas si on a été sévère, mais moi, je te trouve quand même assez étonnamment sympathique avec la prestation de la Croatie sur les deux premiers matchs qui m'a semblé être, pour le coup, une des équipes les plus faibles, qui a le moins montré de cet Euro. Donc,
je vois l'Écosse qui a pas le potentiel.
On ne va pas comparer le niveau des joueurs croates et le niveau des joueurs.
Oui, pourtant, il y a 5 millions d'habitants en Écosse aussi.
Tu parlais de possession. Moi, sincèrement, quand je vois cette équipe croate jouer, ça me rappelle un peu cette équipe d'Espagne encore à la Coupe du Monde au Qatar où elle faisait uniquement un jeu de possession, mais à la fin, pour moi, il n'y a rien qui se passait en fait. Donc aujourd'hui, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on sent que dans cette équipe qu'il y a moins de jambes. Il y a moins de jambes, c'est pour ça qu'ils font un jeu de possession qui est stérile. Pour moi, c'est stérile. Il n'y a pas un joueur capable de prendre la profondeur. On sent qu'elle joue quasiment, mais tout ce match à la même intensité. Yeah. Mais quand on voit une équipe, quand on voit cet Euro-là, on voit des jeunes joueurs, on voit des équipes qu'on connaissait, ou du moins qui ne s'étaient pas révélées. On voit que la plupart des matchs, il y a énormément d'intensité. Moi, je suis allé encore, j'ai vu le match de l'équipe de France. Honnêtement, l'Autriche, ce n'était pas l'équipe waouh. Mm. Mais quand on voit l'intensité qu'elle a mise dans ce match-là, tu comprends que si tu n'as pas de répondant, niveau physique, c'est difficile d'exister. Aujourd'hui, mais c'est ce que je constate sur cette équipe.
Je suis d'accord sur la première période des Croates qui a été décevante, mais ils ont su réagir et ils ont su renverser le score. Après, ils ne l'ont pas gardé, mais ils ont su le regarder. Et il y a eu deux changements faits par Zlatko Dalic à la mi-temps. Il a notamment sorti Lovro Majer, l'ancien joueur de Rennes, qui pour moi est une vraie déception parce qu'il ne confirme jamais au haut niveau. Il a fait rentrer d'autres joueurs à la place. Et à l'arrivée, il renverse la tendance. Donc, ils ont su réagir. Ils n'ont pas su garder le résultat. C'est la seule chose qu'on peut leur reprocher.
Bon, en tout cas, ils vont donc jouer le prochain tour face à l'Italie ou face aux Espagnols. On a envie de leur dire bon courage et on les suivra
aux Italiens, aux Espagnols
et on les suivra donc dans cet Euro, autant les Croates que les Albanais, parce que pour l'instant c'est compliqué pour eux, ils n'ont qu'un point. On continue avant d'aller au match de la soirée. Vous parliez de l'Écosse tout à l'heure, et bien on va quand même revenir sur le match de la soirée d'hier.
Cette fois, il est rentré, Francisco Conceição, le fils de Sergio Conceição.
Ils ont souffert, mais ils ont inscrit leur but à la 92e minute et ils ont donc réussi leur entrée dans cette compétition, les Portugais, hier, en l'emportant 2-1 sur la République tchèque et surtout sous une pluie incessante. Un vrai soulagement, reconnaissait l'un des acteurs du match, Bernardo Silva, au micro de Marco Martins.
Très content, un match difficile contre une équipe qui nous a posé beaucoup de difficultés, qui a défendu bas parfois et il fallait mettre plus de joueurs dans la surface. Je pense que ça nous a manqué spécialement le premier mi-temps. Mais bon, on est très content avec les 3 points, c'est le plus important de commencer bien cette tournoi et maintenant on va travailler pour continuer. On est content de l'avoir avec nous, on est content qu'il est notre capitaine et on va tout faire pour qu'il peut marquer aussi des buts pour nous aider, c'est le plus important.
Le Portugal, Benjamin Moukandjo, est-ce que cette équipe solide, 70% de possession, hein, puisqu'on était dans la possession contre l'Estonzi, mais en face, il y avait un bus, un double bus, un triple bus, il y avait un mur tchèque. Ça a été dur pour eux de sortir du piège. Et c'est ce qu'il nous dit, hein, Bernardo Silva. Et vous avez vu, après, on en parlera, il rendait hommage aussi à son capitaine. On parlait de vétéran, lui, il a 39 ans. Oui. Et il n'a pas marqué.
Non, mais je pense qu'il s'attendait forcément à ce que cette équipe tchèque vienne littéralement mettre ce bus devant leur but, parce que chaque équipe, encore une fois, pour moi, joue avec ses qualités. C'est pas le même effectif, mais quand on voit, moi, quand ce qui m'a sidéré un peu à l'approche, enfin, pendant ce match-là, c'est le choix de l'entraîneur de Martinez.
D'avoir notre envoyé spécial, Mendes, pareil, il est parti
oui, parce
tout de suite là-dessus.
Il n'a pas compris positionnement de l'avoir fait jouer parmi les trois défenseurs centraux, alors que tu sais que déjà le système, il a changé, il est passé en 3-5-2 ou en 3-4-3, je ne sais plus trop. Mais le positionnement de Mendes au départ de ce match, je trouvais que c'était une grosse erreur. Un joueur qu'on a vu dans le championnat, on voit en l'occurrence au PSG, qui joue sur ce côté, on sait qu'il est ultra offensif. Et de faire ce choix-là, de le mettre là parmi ces trois centraux, c'était déjà une grosse erreur. Après, quand on regarde quand même dans la composition de son équipe, c'était une équipe ultra offensive. Parce que quand vous avez
Bernardo Silva,
Bruno Fernandes, Ronaldo, Leao, Vitinha, vous avez quand même au moins 5, voire 7 joueurs à vocation offensive. Et à la fin, vous défendez qu'avec Pépé et Ruben Dias. Donc, je les ai trouvés par moments très déséquilibrés, surtout lors des pertes de balles. C'est où vraiment cette équipe tchèque a réussi à les faire mal. Parce que dans les phases offensives, moi, je trouvais qu'il y avait ce jeu de possession, ce jeu de passe. On essayait de trouver des zones d'accélération. Parfois, ça manquait. Leao a fait quelques différences, mais il lui manque encore, on le dit, on va le redire encore, ce dernier geste pour qu'il passe un peu le cap d'être parmi ces top joueurs-là.
Leao, oui.
Mais en tout cas, ils ont le mérite de ne pas avoir lâché. Et on voit que cette équipe a été sauvée finalement par sa jeunesse. Qui est sorti du banc de touche.
Mmh. La jeunesse, justement, Vitinha, Xavier Barret, élu homme du match.
Oui, très bien.
Hier soir. Et effectivement, Chico, hein, comme on le surnomme, mais Francisco Conceição, qui est le fils de son père,
Sergio,
n'est-ce pas Conceição. Et voilà, l'entraîneur du FC Porto.
C'est le deuxième dans l'histoire de l'Euro. C'est la deuxième dynastie père-fils qui marque à l'Euro. Mmh. Vous voyez que j'ai fait un chapitre dans mon guide de l'Euro sur ce... il y avait Chiesa jusqu'à présent. Il y avait 8 familles, père et fils, qui ont joué l'Euro jusqu'à présent.
Et on attend Thuram, donc.
Donc là, Thuram, il a déjà fait. Il a déjà joué à l'Euro 2021. Il avait joué que 17 minutes.
Mais il n'a pas marqué encore.
Donc, mais il n'a pas marqué, effectivement.
Ah oui, non, mais c'est ça. On attendait le but du fils de...
Absolument. Et donc, dans l'histoire de l'Euro, il n'y avait que Chiesa jusqu'à présent qui ont marqué père et fils. Mmh. Le père avait marqué lors de l'Euro 96 avec l'Italie et le fils a marqué 2 fois lors du dernier Euro gagné par les Italiens. Et donc là, pour la 2e fois dans l'histoire de l'Euro, il y a un père et un fils qui marquent dans la compétition puisque Sergio Conceição s'était illustré avec le Portugal notamment. Il avait réussi un triplé contre l'Allemagne au premier tour de l'Euro 2000. Donc là, son fils marque en sortant du banc, en marquant en toute fin de match.
Alors que sa sélection a été un peu contestée.
Absolument, parce qu'il est protégé depuis de nombreuses années par son père à Porto. Mmh. Il avait même été prêté une saison à l'Ajax Amsterdam. Et puis il n'est pas resté à l'Ajax, il est revenu à Porto. Et donc là, on se posait beaucoup de questions, puisque Sergio Conceição quitte le FC Porto. Est-ce qu'il va emmener son fils avec lui? Est-ce que son fils va continuer? Et là, le fait qu'il soit en sélection et qu'il marque pour
sa première apparition,
la victoire au Portugal, ça va forcément lui apporter beaucoup de crédit.
On a vu d'ailleurs Cristiano Ronaldo se précipiter en bon capitaine et le féliciter. Alors, il y a la jeunesse au pouvoir, mais il y a aussi des vétérans dans cette équipe. est-ce que... Alors, on va... Il y a d'abord ce capitaine qui a 39 ans et qui a joué les 90 minutes. Il a même épaté l'entraîneur adverse parce que l'entraîneur tchèque a dit que l'attaquant portugais avait montré sa qualité, sa capacité à se créer des occasions. C'est incroyable d'être aussi dangereux à son âge, a-t-il dit, chapeau à lui. Puis on a le défenseur Pep, 41 ans, le joueur le plus âgé à disputer un match à l'Euro. En même temps, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que ça s'est vu durant le match hier qu'ils avaient cet âge-là ou pas du tout, Étienne?
Franchement, pas du tout concernant Cristiano, parce que bon, c'était quand même un peu plus facile pour Pep, parce qu'on ne peut pas dire que donc, les attaquants adverses étaient très très dangereux. Donc
même
c'est un
si
match assez tranquille
marque.
pour lui. Mais pour Cristiano Ronaldo, bah, on l'a vu avec N'Golo Kanté, finalement, ce championnat d'Arabie Saoudite, si on se prépare bien et si on est sérieux, ce qui est le cas évidemment de Cristiano Ronaldo, qui ne pense absolument qu'au football.
Il est hors catégorie, lui.
On peut se maintenir à un très bon niveau. Et moi, j'ai franchement été étonné aussi. Alors, je n'ai aucun doute sur le niveau physique d'N'Golo Kanté. Et je trouve que Cristiano Ronaldo est léger, aérien. Et je trouve qu'il il a absolument pas perdu physiquement. Ça, on n'avait pas de doute dans la surface, mais il est capable aussi de faire des courses. Enfin, moi, il m'a plutôt étonné. Il a d'ailleurs énormément marqué, même si c'est que le championnat d'Arabie Saoudite, il a quand même énormément marqué. Donc, franchement, je crois que c'est son 6e euro. Il faut demander à.
Exactement.
Oui, c'est le premier joueur le record, à jouer 6 euros. Absolument. Mmh.
À chaque fois qu'on parle de Cristiano Ronaldo, on ne sait plus trop quoi dire, tellement les statistiques sont impressionnantes.
C'est vrai qu'hier, il a été. Il s'est mis en évidence, mais quand on connaît sa soif du but, sa volonté de marquer, il n'a pas marqué. Ouais. Il n'a pas marqué.
Il n'a pas marqué. Il y a quelque chose qui a changé dans le jeu de Cristiano Ronaldo, c'est qu'il ne se plaint plus.
C'est ce que j'ai voulu dire en plus.
Avant, il était presque. Il obligeait quasiment ses partenaires toujours à le chercher, à lui donner le ballon, même quand il n'était pas dans une bonne situation. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Et quand ce n'est pas lui qui est sur une action, il reste extrêmement positif. Ouais. Je crois que c'est l'apport de l'entraîneur qui a parlé avec lui.
Il a compris aussi que. Il n'est plus le grand Cristiano Ronaldo qu'il a été, même si pour nous, il demeure et il restera toujours un très, 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 très grand joueur de l'histoire de ce sport. Mais maintenant, je crois qu'il est en train de jouer les prolongations de sa carrière. Là.
Mm-hmm. Ouais, il veut faire la Coupe du Monde. Hein.
Il veut en 2026 encore.
On verra bien. Il y a encore 2 ans, on ne sait pas ce qui va se passer.
Mais Roberto Martinez, lui a pris
dans son attitude, moi, au-delà de sa performance même hier, c'est surtout l'attitude que moi j'ai remarqué. Parce que comme tu disais, Etienne, c'est qu'il ne se plaint plus lorsqu'on ne lui met pas le ballon. J'ai vu, il a fait 2-3 appels en profondeur où Bruno Fernandes ne l'a pas servi. Mais dans son attitude, tu vois qu'il y a un truc qui a changé. Aujourd'hui, il est devenu ce leader, ce capitaine dont on attendait pendant des années, qui ne pensait pas qu'à lui. Et ça se voit même dans ce but-là, le deuxième but qui marque le Conceição. Il le célèbre même, on a l'impression que c'est lui qui le marque, tellement il est content. Donc tu sens qu'il
a
envie de les amener le plus loin possible.
Il y a eu des situations.
Et il a même pu être décisif.
Exactement, il a bien failli
l'être. C'est son coup de tête. Voilà. Moi, je trouvais qu'il a fait un bon match. Et dans l'attitude aussi, c'est parfait. Rien à dire.
En tout cas, Xavier, le Portugal figure parmi les favoris de cette compétition, au titre d'autres grandes nations. Et c'était très important quand même pour eux aussi de gagner ce premier match.
Bien sûr.
Ça veut dire beaucoup dans une compétition.
C'est très important pour plein de raisons et une que Didier Deschamps rappelle souvent, c'est que quand vous gagnez le premier et le deuxième, vous pouvez laisser vos joueurs au troisième, vos titulaires au repos lors du troisième match, faire jouer les coiffeurs, les remplaçants, impliquer donc tout votre groupe et avoir des joueurs plus frais pour le 8e de finale.
Au Portugal, les coiffeurs ils sont pas mal quand même.
Ouais, ils sont pas. Oui,
ils font des belles coupes.
Le
Portugal est une très belle équipe, on n'en doute pas. Mais j'ai vu un de leurs matchs de préparation sur la chaîne L'Équipe. D'ailleurs, qui les diffusait. Mmh. C'est contre la Croatie, justement, ils avaient perdu, sans Cristiano Ronaldo, d'ailleurs. Donc c'est, s'il y a des titulaires et des remplaçants, c'est peut-être qu'il y a encore une petite marge entre certains joueurs.
Au niveau du jeu, moi, j'étais un peu déçu par le Portugal, parce que, comme ça a été dit, ils avaient une équipe très offensive avec un milieu de terrain extrêmement créatif, avec quasiment 3 numéros 10, 3 meneurs de jeu. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de combinaisons, beaucoup plus de jeux combinés entre les uns et les autres. On n'a pas vu grand-chose. C'était aussi un petit peu stérile. Ça tournait autour de la défense sans avoir beaucoup d'imagination, sans avoir beaucoup de combinaisons et de vitesse. Mais bon, finalement, il y a quand même du talent et ça leur a permis de faire la décision.
C'était compliqué quand même, parce que les Tchèques, ils avaient quand même un bloc assez bas.
Hyper défensif.
Oui, mais le Portugal a l'habitude, à un niveau de possession très élevé, donc ils ont l'habitude de jouer face à des blocs bas.
Est-ce qu'ils jouent quand même très différemment de 2016, lorsqu'ils sont champions?
Un petit peu quand même, le jeu est plus offensif
aujourd'hui. Parce que vous vous souvenez, on s'était manqué beaucoup.
On s'ennuyait toujours un petit peu devant l'équipe du Portugal, qui avait toujours déjà de très beaux joueurs, de très belles individualités. Finalement, on ne voyait pas grand-chose au niveau collectif. Là, normalement, c'est quand même un peu mieux.
En tout cas, voilà pour ce qui est du Portugal. Entrée avec une victoire. Et donc, ils sont bien les joueurs autour de Cristiano Ronaldo. On continue. Il y a un match important ce soir. Et il s'agit d'Écosse-Suisse.
Ich wünsche euch alles Gute und konzentriert euch aufs Spielen. Let's go!
Wir wünschen der Schweizer Nazi alles Gute für dich!
Alles Gute für dich, M24. Let's go!
Une ambiance folle déjà à Cologne. Le match a commencé avant le coup d'envoi dans les rues de la ville qui accueille donc ce soir l'Écosse et la Suisse. Une équipe au chardon portée par son incroyable Tartan Army. Une armée de supporters. Alors ils sont, on les voit, hein, souvent en kilt. Ils ont aussi d'autres accessoires en tissu écossais. Hein. Ça peut être une casquette, un béret ou quelque chose. Et puis, évidemment, il y a les cornemuses. Selon les médias, alors, ils seraient 250 000 supporters à déferler sur le territoire allemand pour encourager leur équipe. Bien sûr, pas tous dans les stades. Apparemment, ils sont répartis sur des villes en se disant « on veut être au pays de l'euro ». Ça fait 2% de la population quand même de l'Écosse. Ils sont un peu marseillais quand même, peut-être, les Écossais,
Non, Xavier. C'est une tradition, la Tartan Army, les supporters écossais se déplacent.
250 000 personnes, c'est...
Oh, oui, c'est beaucoup, mais quand vous voyez la passion qu'il y a pour le football en Écosse, où j'ai eu souvent l'occasion d'aller quand j'étais à France Football, à Glasgow, un peu moins à Édimbourg, mais même dans d'autres villes comme Dundee ou Aberdeen, vous avez toujours deux clubs, ou presque, dans ces villes. Il y a des derbies, il y a une
vraie passion. Les plus connus, le Celtic et Glasgow Rangers, bien sûr.
Où il y a d'autres clubs d'ailleurs. Mm-hmm. Mais il y a une vraie passion autour du sport en général chez les Britanniques. Et en Écosse, ils sont très attachés à ces symboles que sont leur équipe nationale, parce que c'est aussi un moyen d'affirmer cette identité écossaise par rapport à l'Angleterre, enfin par rapport au Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Donc ces équipes nationales de foot, mais aussi de rugby par exemple, sont extrêmement populaires et bénéficient d'un très très fort soutien.
Notre envoyé spécial Antoine Grenier était sur le match d'ouverture à Munich, où c'était donc Allemagne-Écosse, et il nous a beaucoup raconté ces Écossais dans les rues.
Est-ce qu'il les a suivis au bar aussi,
hein? Alors, ça, il n'a pas match, tout raconté, mais par contre, la cornemuse qu'on entendait notamment, c'était lui qui l'avait rencontré et croisé, cette cornemuse.
C'est qu'il y était alors.
Il y était vraiment.
Ah ben là, faut les suivre.
Mais en plus, ces Écossais, eux, leur vrai adversaire dans tout ça, c'est évidemment l'Angleterre. Et c'est très amusant parce qu'il y a des interviews un peu partout. Et il y en a un qui a dit, il a expliqué que dans ses cauchemars, il voit un cauchemar, dit-il, un vrai cauchemar, il voit Harry Kane soulever la Coupe d'Europe.
Ah oui.
Donc vous voyez, c'est vraiment... Mais en tout cas, on connaît un peu leur rituel. Il y a ce Flower of Scotland, Étienne Moati. Il y a le Braveheart aussi, hein, qui est un autre air folklorique connu. Ils s'amusent aussi. Il y a des t-shirts où ils mettent, en fait, il y a marqué les meilleurs joueurs d'Écosse, mais en fait, meilleurs joueurs avec l'Écosse, je ne sais pas quoi. Et en fait, ce sont tous leurs bourreaux, entre guillemets, c'est-à-dire tous ceux qui, depuis 1986... Alors, il y a Mac Radona, vous aurez compris, et toute une carrière de très grands joueurs et qui, en fait, ont marqué des buts décisifs contre...
C'est une culture de football absolument formidable. C'est
une vraie culture.
C'est des hordes de supporters, mais normalement et a priori pacifiques. Oui. Il y a très peu de problèmes avec les supporters écossais.
Ils disent que maintenant, ils règlent leurs problèmes entre eux.
Exactement. Et ils supportent une équipe qui, au niveau du talent, quand même, est sûrement une des dernières de 7 euros, parce qu'ils n'ont franchement pas beaucoup de grands joueurs, mais ils compense avec un état d'esprit formidable et puis des supporters qui les poussent dans un esprit extrêmement positif. Franchement, ça fait plaisir de les voir.
Ouais, si seulement ils avaient...
Macradona.
Si seulement ils avaient des joueurs au même
ils
niveau.
Ils ont McTominay.
Au même niveau que sont les supporters, je pense qu'ils...
Il faudrait faire un championnat aussi comme ça, à qui revient la palme. En tout cas, en face, il y a les Suisses. Alors eux, ils ne manquent pas d'humour. Ils adorent, vous avez entendu la cloche tout à l'heure, se déguiser en vache. On les a vus. Moi, je les ai vus à Salvador de Bahia en 2014, mais ils étaient aussi au Qatar en 2022, quand il y a eu, cher Benjamin, un fameux Suisse-Cameroun, n'est-ce pas, ou Cameroun. D'ailleurs. Et alors là, on a vu Pierre Guérin repérer sur les réseaux sociaux, il y avait cette pancarte quand ils ont joué contre la Hongrie, qu'ils ont battu sur le score 3-1, il y avait fondu better than goulash.
Ouais.
Alors on peut se demander si ce soir, alors la fondue c'est meilleur que le goulash qui est le plat typique hongrois. Et on peut imaginer peut-être que ce soir, ils vont nous faire une fondue better than haggis, qui est le plat typique des Écossais.
Ouais, la fondue, c'est meilleur que ce plat écossais. Mais la force de la Suisse par rapport à l'Écosse, notamment, c'est qu'ils ont une vraie politique de formation. Et ils ont une politique de formation qui a déjà été récompensée dès 2000.
Mais là, vous allez sur le terrain du foot, vous, là.
Ah oui, pardon.
On
vous
était encore
pas...
sur le terrain des supporters. Non, mais.
Oui, oui, non, mais après, il y a en Suisse aussi, il y a beaucoup de folklore. Et c'est vrai que les supporters sont marrants avec les cloches des
Mais on
des
y
vaches.
Vient, évidemment, Xavier, à ce match de ce soir. Parce que l'équipe d'Écosse, elle a été écrasée en ouverture. Alors, ça n'a pas. Hein, les supporters, ils gardent le moral. D'ailleurs, on les entendait avec leur cornemuse dans le stade, malgré ce 5-1. Et puis, la Nati, elle, qui a donc battu la Hongrie. Alors, ce soir, y aura-t-il une résistance écossaise? Écoutons Steve Clark, l'entraîneur de ces Écossais.
Il faut avant tout éviter de concéder 5 buts et essayer de délivrer un meilleur message. Si je devais faire mon autocritique, et je le fais souvent, je commencerai par moi-même. J'ai peut-être donné trop d'informations et mon message a sans doute un peu embrouillé les joueurs. Il y a ce que nous réalisons avec le ballon et sans le ballon. Nous devons faire mieux et travailler sur ces aspects. Nous allons essayer de nous améliorer. Les joueurs comprennent qu'ils ont déçu tout le monde. Ils sont déçus eux-mêmes, mais ils savent qu'ils doivent être prêts ce soir. Et j'espère qu'on verra autre chose.
Et en face, la Suisse est très méfiante face à cette Écosse, on va dire, revancharde. Le défenseur suisse, on le connaît bien, il joue à Manchester City, n'est-ce pas, Manuel Akanji, il se dit prévenu.
Ils ont perdu leur première rencontre, mais je ne pense pas qu'ils aient montré le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont d'ailleurs joué longtemps à 10 contre l'Allemagne. Face à nous, ils auront à cœur de montrer autre chose que vendredi dernier. Ils ont fait une belle campagne d'éliminatoire, nous sommes prêts à les affronter et nous ferons de notre mieux, même si les Écossais seront là pour la victoire, prendre les 3 points et préserver leurs chances de qualification. C'est aussi notre intention, nous devrons être sur nos gardes, nous savons ce qu'ils sont capables de faire et nous devrons être performants une fois encore.
Alors, cette équipe de Suisse, parlons-en, Xavier, parce qu'en plus, elle a un beau réservoir.
Alors, ils ont cette formation.
Une belle formation.
Ils ont des résultats. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est que la formation, elle a commencé à être récompensée avec le titre de champion du monde des 17 ans en 2009. Notamment Ricardo Rodriguez. Oui, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka et Seferovic. Alors Seferovic, il n'y est pas là, mais ce sont des joueurs qui ont... Xhaka et Rodriguez, ce sont les piliers de cette sélection depuis plus d'une décennie maintenant, depuis 15 ans. Et puis derrière, ce sont arrivés d'autres générations qui ont eu l'occasion de s'illustrer qu'on a pu repérer d'ailleurs dans les compétitions de jeunes au niveau de l'UEFA. Et donc, il y a désormais cette formation très prolifique en Suisse qui leur permet d'avoir toujours une équipe nationale compétitive, au point que depuis 2014, il n'y a que 2 sélections qui sont toujours sorties des poules des compétitions internationales auxquelles elles ont participé, Euro ou Coupe du Monde, la France et la Suisse.
Alors, on parlait d'Akanji, Benjamin Mukanjo, évidemment, ô combien précieux dans cette formation. Xhaka, qui lui joue avec Arsenal, avec Leverkusen maintenant, pardon. Leverkusen. Et puis, on a aussi Brel Embolo.
Oui.
Et on a aussi un joueur qui s'appelle Dan Doy. Il y a aussi des joueurs. Et Embolo, on s'en souvient bien, donc on y faisait allusion, ce match de Coupe du Monde Suisse-Cameroun. C'est lui, d'origine camerounaise, qui avait marqué le but.
Ouais, exactement. Ouais. On ne lui a toujours pas pardonné, d'ailleurs. Non, d'autant plus que c'est une belle équipe, avec surtout de jeunes joueurs et puis un banc de touche aussi capable de faire la différence. On parlait de Mbolo qui a été remplaçant, il a été préféré à Doua, je crois, c'est ça, l'attaquant, ouais. qui est tout jeune en plus, pas tout jeune, mais qui vient d'arriver en sélection. Je crois qu'il a 28 ans et
c'est sa deuxième sélection
et ouais. Il a été décisif lors de ce match-là. Mbolo qui a été blessé notamment, donc il avait quand même une incertitude, mais il rentre en cours de match, il marque, il est décisif
troisième
encore une fois
de
plus. Mais moi j'ai trouvé une équipe très solide sur le plan athlétique, qui vraiment ne laissait pas d'espace, qui n'a pas laissé son adversaire respirer. Et je crois que pour ces Écossais, ça va être un match difficile. Mais je reste sur le fait qu'après l'humiliation contre l'Allemagne, où elle prend 5 buts, et même si elle a joué à 10 contre 11 pendant un moment,
deuxième mi-temps,
elle n'aura pas forcément envie de se reprendre. Comme il a dit, son sélectionneur n'a pas envie de reprendre 5 buts derrière. Donc au moins, il faut... elle va faire amende honorable et essayer de pousser ces Suisses-là jusqu'au bout. Mais... je vois quand même la Suisse gagner, ça va être difficile de ne pas voir cette Suisse gagner et assurer sa qualification ce soir.
La Suisse, nous s'en souvient bien, Étienne, parce qu'elle avait éliminé la France, donc un huitième de finale à l'Euro.
Par contre, nous réussissent moins bien que les Croates. Un peu.
Mais cette équipe écossaise, vous la voyez se rebeller un peu ce soir?
Plutôt pas. parce qu'elle a un état d'esprit, elle a les supporters dont on a vanté les mérites, etc. Il n'y a pas non plus une qualité individuelle et un niveau de jeu collectif. Qui...
Mais les joueurs des grands clubs comme McTominay, ça ne suffit pas pour guider, je dirais, une formation.
Ben, c'est vrai que lui marque beaucoup de buts pour un milieu de terrain. Maintenant, il est peut-être pas si bien accompagné que ça. C'est-à-dire, c'est l'équipe suisse, finalement, il y a peu de joueurs qui ressortent individuellement. Mais comme l'a dit Xavier, il y a une force collective importante, une stabilité, une régularité dans la performance. En général, c'est assez rare que la Suisse passe complètement au travers d'un match. Donc, c'est une équipe accrocheuse qui lâche rien, qui a un bon niveau collectif. Donc, je pense que c'est suffisant pour maintenir les Écossais à distance.
Xavier, il y a aussi Robertson, joueur de grand club. Lui, il est
Il y a trois joueurs dans cette équipe quatre en comptant Tierney, qui était à Arsenal et qui est prêté à la Real Sociedad. Uh-huh. Robertson, donc, de Liverpool. McTominay de Manchester United et McGinn, le capitaine qui joue à Aston Villa. Les autres, c'est vraiment des joueurs de Championship ou de.
Malheureusement, il leur a manqué un peu aussi des très bons joueurs qui étaient blessés au dernier moment à cette équipe.
Il y a Nathan Patterson, mais bon, c'est pas.
Et un Ferguson aussi.
Il y a toujours un Ferguson dans l'équipe d'Écosse.
Mais bon, très honnêtement, le problème de l'Écosse aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'argent, en fait. Ça fait maintenant quelques années que Sky, qui diffusait le championnat d'Écosse en mettant beaucoup d'argent, comme dans le championnat d'Angleterre, a arrêté de le diffuser. Setenta, une société irlandaise, avait pris le relais, puis Setenta a fait faillite. Et donc aujourd'hui, les clubs écossais n'ont plus les moyens de recruter des joueurs pour encadrer les jeunes. Et même les jeunes, dès qu'ils ont un peu de talent, ils vont en Angleterre. Donc aujourd'hui, vous avez un championnat d'Écosse qui est d'un niveau assez faible. Le Celtic et les Rangers qui avaient fait faillite d'ailleurs, qui sont repartis en 4e division, qui sont remontés. Le Celtic et les Rangers essayent de surnager parce qu'ils ont un gros soutien populaire, donc beaucoup de recettes guichets et de marketing pour arriver à avoir des équipes à peu près compétitives. Mais au niveau européen, ils font juste de la figuration.
Mais s'ils jouent à l'étranger, ils pourraient aussi...
Vous avez trop peu de joueurs évoluant à l'étranger, mais vous avez trop peu de joueurs de qualité.
Oui, mais là, vous avez trop peu de joueurs de qualité. Vous n'avez pas une formation assez performante.
Si c'est un thème de formation, je suis d'accord. Si la formation, ils ne mettent pas un accent dessus, parce que c'est la formation demain qui te fournit les joueurs en équipe nationale. Que le championnat soit d'un faible niveau, ou même qu'il ne soit plus aussi attractif qu'il a été dans le passé, ça, c'est autre chose, parce que le championnat, tu vas chercher les joueurs, forcément, ça va être peut-être aussi des joueurs étrangers. Mais si tu ne formes pas des joueurs locaux pour pouvoir fournir ton équipe nationale, c'est très compliqué. Et qu'ils partent à l'étranger, pour moi, c'est même un plus, parce que si comme tu disais, qu'ils vont en Angleterre, donc ils vont quand même dans le plus grand championnat du monde. Donc
même si c'est championship.
Mais il y en a très peu.
On connaît les équipes de championship qui sont meilleures que les équipes de Ligue 1.
Oui.
Donc logiquement, vous devrez être quand même
voilà,
à un certain niveau.
Et on attaque la Ligue 1 une nouvelle fois.
Et au fait,
si
Étienne Moati.
Oui.
Où est-ce qu'on verra la Ligue 1 l'année prochaine ? Dans les stades, mais après.
Annie, vous allez faire comme tout le monde, vous allez attendre encore un peu parce que l'affaire des droits de télé de la Ligue 1 n'est pas encore bouclée.
Non, toujours pas ?
Non.
Le feuilleton.
Mais si ça arrive, je vous passe un coup de fil.
On vous invite. Vous nous raconterez. Voilà pour ce qui est donc de ce match qui aura lieu à 21h, 19h en temps universel, et on se retrouvera juste après en deuxième émission. Et puis on vous parlera aussi de ce match qui est en train de se terminer, première mi-temps, entre l'Allemagne et la Hongrie. Et pour l'instant, l'Allemagne a inscrit le premier but grâce à Moussiala. Il y a eu aussi pas mal de déviations, mais c'est Moussiala qui a été à l'origine de ce but allemand. On continue et on termine. On va évidemment prendre des nouvelles d'un certain Kiki. Ah. Vous savez qui c'est ?
C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je ? C'est un cap, c'est une péninsule. Le voilà donc ce nez qui détruit de son maître, a détruit l'harmonie.
Au bal, masqué, ohé, ohé. Elle danse, au bal masqué.
Vous aimez les bals masqués ? Qu'est-ce que vous aimez comme masque quand vous allez au bal masqué ?
Benjamin connaît bien la chanson.
Moi, je la connais par cœur.
Je crois qu'on la connaît tous, Étienne. Ne faites pas ça. On a tous fait la fête à un moment avec ça, n'est-ce pas ? Alors, le nez de Kylian Mbappé. Un feuilleton, évidemment, que l'on suit et que l'on va suivre, malheureusement, durant cette compétition. En tout cas, jusqu'à ce qu'on en sache un peu plus, le capitaine de l'équipe de France est avec son groupe après avoir été quelques heures à l'hôpital. Et pour l'instant, on ne sait pas officiellement s'il jouera ou non vendredi contre les Oranges néerlandais. Cependant, il était plus ou moins à l'entraînement tout à l'heure, Benjamin.
Ouais, à l'écart du groupe quand même. Un petit...
Il n'était pas dans le bus, mais ensuite il les a rejoints. Ouais, et c'est
ça. Un petit footing à côté, il touchait un peu le ballon. Mais... Bon, maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il pourra tenir son rôle.
Alors, pas de forfait officiel pour l'instant, mais des nouvelles quand même distillées un peu par-ci, par-là. Et là, c'était par deux joueurs en conférence de presse ce matin, William Saliba et Adrien Rabiot. Écoutez, mise en onde, David Finzel.
Quoi de neuf, docteur ?
Je l'ai croisé ce matin, ouais, il allait un peu mieux. Après, je ne sais pas, il était parti faire d'autres tests. Voilà, donc j'en sais pas plus. Ces questions, il faut les demander au doc. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que quand je l'ai vu ce matin, il allait mieux. Voilà.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne sais pas exactement si c'est la même chose que Kylian, mais je sais qu'il a été opéré le lendemain ou deux jours après. Il était disponible pour le match suivant. Après, est-ce qu'ils ont pris des risques à le faire jouer, etc. Ça, c'est notre question. Mais en tout cas, il était là très rapidement. Donc, c'est pour ça que quand on m'a parlé d'une fracture du nez de Kylian, dans ma tête, pour moi, c'était pas tellement grave parce que je me suis dit qu'il pouvait être de nouveau disponible assez rapidement.
Quoi de neuf, docteur ?
Voilà le gimmick qui risque de durer. Cependant, Benjamin Mukanjo, vous qui êtes attaquant, vous qui avez dû aussi avoir un certain jeu de tête, est-ce que vous vous êtes cassé le nez ou est-ce que vous avez eu des copains qui se sont cassés le nez ? Racontez-nous un peu.
Moi, je l'ai eu aussi. Un choc comme ça, pareil, à l'entraînement. Pour moi, par contre, ce n'était pas un match. C'était à l'entraînement à deux jours du match. Et je ne sais pas si je vais dire heureusement ou malheureusement, mais j'avais joué le week-end d'après. Mais bien sûr qu'il y a toujours un risque.
Vous aviez immédiatement rejoué ?
Oui, j'avais rejoué deux jours après. Mais
aviez un masque, du coup, vous aviez quoi ?
Oui, j'avais un masque.
Et c'était quoi, fracture du cartilage ou de l'os ?
Non, de l'os.
De l'os ?
Ouais, ouais.
Opéré ?
Et puis, opéré, vous êtes obligé, parce que sinon, déjà la douleur, elle est...
Terrible.
Elle fait tellement mal. Mais non, je pense que quand on le voit, comme on a vu, enfin moi j'ai vu des images où il a commencé à retoucher le ballon, il a couru... Peut-être qu'il a envie de jouer aussi. Maintenant, il faut quand même le préserver. Est-ce que c'est un match crucial ? Je ne pense pas que ce soit un match crucial vendredi contre les Pays-Bas. Et puis, de l'autre côté aussi, Deschamps a quand même des options. Hein. Ce n'est pas comme si... moi, quand j'ai joué, c'est parce que je crois qu'on n'avait pas forcément... on n'avait pas forcément une option pour me remplacer. Mais, voilà.
Qu'est-ce que vous aviez comme genre de masque ? Zorro, Tortue Ninja.
Non. Oh, mais la blague, elle est bien passée. Hein, En plus, c'est lui qui l'a cherché. Hein,
Exactement.
Non, c'était plus un Max Zorro qui vous permet uniquement de protéger la zone, vous voyez, la zone du nez.
Un peu comme Osimhen.
Voilà, exactement. Vous avez reçu le choc. Mais est-ce que ces masques-là protègent réellement ? Je ne pense pas parce que je pense que même si on vous tape par-dessus, ben forcément, il y a toujours l'impact. Vous allez ressentir l'impact. Moi, j'ai eu. Et encore même pendant ce match-là, j'ai le malheur de recevoir un ballon en plein visage. Et je vous dis tout de suite, j'ai re-saigné.
Ouais. Moi, je ne jouais pas à ce niveau-là, mais je me suis fait casser le nez quand j'étais gamin, enfin j'étais adolescent. J'avais continué comme si de rien n'était. Et 3 semaines après, dans un petit match de rugby entre amis, bim, refracture là, la deuxième fois. Ils m'ont dit non, maintenant vous arrêtez tout, vous ne bougez plus. Parce qu'effectivement, même, c'est une zone qu'on ne peut pas protéger en fait.
C'est difficile.
On ne peut pas faire de plâtre sur un nez.
Le jeu de tête, vous avez besoin d'aller jouer de la tête.
Oui.
Mais très souvent, dans le jeu de tête, il y a la possibilité
que ça finisse. Mbappé fait quasiment jamais de tête. Et la seule fois où il en fait une, il se casse le nez. Donc, je pense que ça va le calmer pour un moment.
Assis à votre place hier, Eric Rabessandratana nous expliquait que ça s'était vu qu'il n'avait pas l'habitude, en fait. Parce qu'il ne s'est pas protégé comme quelqu'un qui... vous confirmez, Benjamin. comme quelqu'un qui a l'habitude de faire des têtes, justement. En tout cas, Étienne, il avait tweeté donc, des idées de masque, on le sait, quelques heures après tout cela. Et là, il a retweeté aujourd'hui, enfin, refait un message sur les réseaux sociaux en disant « Sans risque, il n'y a pas de victoire ». Qu'est-ce que vous en déduisez? Il va jouer ou pas vendredi soir?
Il faut décoder maintenant le message de Kiki de Bondy.
C'est pour ça qu'on vous invite.
J'ai aucun doute sur le fait que lui ait envie de jouer. Ouais. Les joueurs ont toujours envie de jouer, quel que soit le niveau, quel que soit le match, quel que soit finalement ce qui leur est arrivé précédemment. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est pas indispensable de faire jouer Kylian Mbappé. On a le sentiment que sans Mbappé, on peut même plus monter une équipe de football. Il y a quand même 25 joueurs, il y a 6 ou 7 attaquants qui sont disponibles. Le premier match a été gagné. On est quand même dans un premier tour où vous avez 16 équipes qui vont se qualifier. C'est quand même beaucoup.
Sur 24, oui.
Donc, franchement, moi, je le laisserai se reposer. Je le mettrai sur le banc éventuellement. Si jamais les choses tournent mal, peut-être le faire rentrer, mais je ne suis même pas sûr. Et puis attendre le troisième match pour voir dans quel état physique il est et éventuellement le préserver jusqu'au huitième de finale. Et
alors, les statistiques sont là. Hein. Avec Mbappé, c'est 68% de victoire pour les Bleus. Sans lui, ça tombe à 57. Et sur les 7 matchs qu'il a manqués, c'est seulement 3 victoires. Donc 50%, plus de 50% de matchs non gagnés.
Donc, Mbappé actuel n'est pas non plus un joueur qui survole les rencontres, donc je pense que ça peut aussi être le moment, pas de le faire souffler parce qu'il n'est pas si fatigué que ça, mais en tout cas de pouvoir tenter autre chose.
Justement, Benjamin, quelle serait la solution pour vous choisie par Didier Deschamps? Comme une solution logique?
Non, mais je pense que comme Étienne, je suis du même avis qu'Étienne, c'est qu'il faut...
Ils sont 22 hein, à côté
de Mbappé. 22, et d'autant plus que...
24 plus lui, 25.
Voilà. Ouais. Et en plus que Deschamps, il a des solutions. Il y a Barcola qui est là. Si tu les fais venir, c'est qu'à un moment donné, tu estimes qu'il a la capacité, le talent de faire ces matchs-là.
Et Coman
aussi même qui est là, donc tu peux changer ton système, tu peux faire jouer Giroud en attaque, il a plein de solutions. Deschamps, pour moi, le risque, t'as gagné le premier match contre l'Autriche, t'as 3 points. Au pire des cas, tu finiras peut-être meilleur troisième, mais je pense que non, mais c'est vrai, au pire des cas, c'est pour ça que je dis au pire des cas. Donc t'es pas quand même dans une situation où il te faut absolument gagner. Si t'avais perdu par exemple contre l'Autriche, peut-être que mon discours il aurait changé. Mais l'autre côté aussi où je te rejoins pas, Étienne, c'est qu'il faut pas attendre les huitièmes de finale. Quand on sait déjà que physiquement Mbappé il n'est pas pleine possession de ses moyens, pour lui il vaut mieux qu'il enchaîne. Pour que arriver lors de ces matchs à élimination directe, c'est-à-dire en huitième, en quart et voire en demi, pourquoi pas en finale, qu'il arrive au pic de sa forme.
Oui, après tu peux aussi organiser des oppositions, donc et le faire jouer.
Mais ça reste,
c'est pas le même niveau d'intensité. Ouais. Après, évidemment, qu'il serait préférable qu'il soit en pleine possession de ses moyens, qu'il fasse les deux derniers matchs de groupe et qu'il accumule de la confiance et un bon niveau physique. Mais après ce qui lui est arrivé, moi, je plaiderais plutôt pour la prudence. Mais bon.
Et vous, Xavier, quel serait votre plan B?
Non, mais moi, je vous ai donné ces statistiques parce que c'est celles qui existent. Mais je pense qu'il vaut mieux effectivement laisser Kylian sur le banc, le préserver. On aura besoin de lui dans les matchs élimination directe. La France a déjà 3 points. C'est l'occasion de donner plus de responsabilités aux autres. Mm-hmm. Et quelque part même, justement, si ça finit sur un 0-0 ou que l'équipe de France perd, justement, de redonner la main à Deschamps pour qu'il puisse faire les choix en tenant compte de ses échecs des autres attaquants français, ce que je ne souhaite pas, évidemment. Mais c'est vrai qu'on a vu un Giroud un peu en fin de cycle, même si c'est encore un joueur assez exemplaire par son investissement. Mm-hmm. On a vu un
peut-être Marcus Thuram aussi qui pourrait gagner sa place, on va dire.
Marcus Thuram, sa place, il l'a, mais peut-être.
Non,
c'est
mais
possible.
Sa place au centre.
Peut-être aussi, c'est peut-être possible. Je pense que sa chance, il l'a eu beaucoup quand même, Marcus Thuram, ouais. Justement pour favoriser Mbappé. On a vu que ça n'avait pas non plus été une grande réussite. Donc, je pense qu'il n'y a pas de risque majeur à chercher un nouveau système et de titulariser d'autres joueurs. Mm-hmm. Pour moi, une attaque avec Giroud au centre, Barcola à gauche et Dembélé à droite, ça tient la route. Et Coman, il revient quand même, lui, pour le coup de blessure. Il n'a pas encore fait de match entier, donc peut-être remplacer Dembélé en cours de match plutôt que de faire rentrer Kolo Muani, ça peut être une option. Vous voyez, j'explique tout à Deschamps. Il n'a plus qu'à suivre le chemin.
Eh bien, on aura combien encore? 2 jours à attendre.
Jours,
ouais. Oh là là, ça va être long, hein, on va encore beaucoup en parler. Bon, en tout cas, on suivra tout ce qui touche à l'équipe de France. Et surtout, on va continuer à suivre ces matchs de l'Euro, puisque la compétition se poursuit. Pour ce qui est de l'Allemagne-Hongrie, ça va recommencer le match. Et nous, on va se retrouver, chers auditeurs, dans la deuxième partie de Radio Foot International. Soyez au rendez-vous, ça sera à 21h10. 23h10 heure de temps universel et 23h10 heure de Paris. Merci beaucoup messieurs.
Merci Annie
d'avoir été autour de moi aujourd'hui et on vous dit à tout à l'heure. Merci.